Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui Rosh Chodesh Nissan, premier jour du mois de Nissan, qu'on appelle aussi le mois de la délivrance, Chag HaGeoula, Chodesh HaGeoula, et on est le 26 mars. Et donc automatiquement, puisqu'on est aujourd'hui Rosh Chodesh Nissan et que c'est peut-être l'un des jours les plus importants de l'année, et il est d'ailleurs autant mystérieux, autant caché qu'il est important, parce que bon, finalement, on ne sait pas tous à quel point ce jour est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas directement parler de la paracha, mais on va plutôt parler du jour, c'est-à-dire donc de Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi je dis que ce jour est extrêmement important? Parce que ce jour évoque la première mitzvah qui a été donnée au Am Israël, comme on le sait. On va aller doucement pour expliquer. Le tout premier Rashi de la Torah dit que la première mitzvah que nous avons reçue, le premier commandement que nous avons reçu en tant que peuple, est la mitzvah de sanctifier le premier jour des mois. Et cette mitzvah a commencé par le premier jour du mois de Nissan. C'est-à-dire, comme on le sait, on a la mitzvah donc de Rosh Chodesh, la mitzvah donc qui s'appelle la tête du mois, qui a pour but de sanctifier, on va bien sûr essayer de comprendre ce que ça veut dire, de sanctifier le premier jour de chaque mois. Et le premier mois où cette mitzvah a été donnée a été le mois de Nissan, notre mois, donc ce jour aujourd'hui, qui a été choisi pour être le premier des mois de l'année lunaire. Car comme on l'a déjà vu des milliers de fois, le peuple juif avance en même temps sur deux jambes, c'est-à-dire sur deux calendriers, l'un solaire et l'un lunaire. Les 365 jours de l'année qui commencent le premier jour du mois de Tishrei et qu'on appelle donc la fête de Rosh Hashanah, et les 354 jours du calendrier lunaire qui commencent aujourd'hui, le premier jour du mois de Nissan. Il y a 11 jours, en gros, de différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, et c'est pour ça que grâce à de, on pourrait dire, complexes et très profonds calculs, les maîtres d'Israël réajustent constamment le calendrier lunaire au calendrier solaire, en rajoutant globalement, il y a d'autres choses qui sont faites aussi, mais globalement, tous les plus ou moins 3 ans, on rajoute un mois, le 13e mois de l'année, puisque en 3 ans, on perd plus ou moins 30 jours, la lune sur le soleil. Donc en rajoutant un mois, le 13e mois qui est le 2e mois de Hadar, donc 2 fois Hadar, on arrive plus ou moins à réajuster donc les deux calendriers, le lunaire et le solaire. Alors on a déjà eu l'occasion d'expliquer à de nombreuses reprises ce que signifient ces deux calendriers, pourquoi on avance à la fois sur le cycle lunaire et à la fois sur le cycle solaire. C'est pas directement le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à cette première mitzvah qui a été donnée. Donc, Rashi met en évidence, le tout premier Rashi de la Torah encore une fois, que la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif a été la mitzvah, je me répète, de sanctifier le premier jour des mois. Et cette mitzvah a été donnée pour la première fois au sujet du Rosh Chodesh Nissan. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce jour évoque la toute première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. Alors tout de suite, on peut se poser la question, comment première mitzvah? On avait déjà eu apparemment d'autres mitzvot avant celle-là. On avait reçu la circoncision, on avait reçu l'interdiction de manger du nerf sciatique, etc. Et quantité d'autres choses. Quantité non, mais en tout cas, plusieurs autres choses. Alors bien sûr, la réponse est simple. On parle ici de la première mitzvah donnée au peuple juif. C'est-à-dire que la première fois qu'il y a un peuple juif. Avant, il n'y avait pas de peuple juif. Il y avait des pères, des mères, ce qu'on appelle les pères et mères fondateurs. C'est à un père qu'a été donnée la mitzvah de la circoncision. De même, après, il y a eu au plus une tribu, une famille, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire donc une famille, mais ce n'était pas encore véritablement un peuple. Le peuple, comme on le sait, ne va se former véritablement qu'en Égypte. Et donc, le peuple, en tant qu'entité nationale, n'avait jamais encore reçu une mitzvah qui le concerne lui en tant que peuple. Et donc la première mitzvah qui le concerne en tant que peuple, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, c'est dire, et c'est ce que Rashi veut mettre en évidence, à quel point c'est fondamental de comprendre ce qui se cache derrière cela, pour plusieurs raisons. Première raison, on sait, il y a un principe fondamental dans notre Torah, Chaque première chose contient en puissance tout ce qui va venir par la suite. Comme une graine qui contient l'arbre, comme une semence qui contient l'humain, ce qu'on appelle le réchit, c'est d'ailleurs pour ça que la Torah commence par le mot béréchit, qu'on traduit vulgairement et faussement par au commencement, mais qui signifie, comme on le sait en hébreu, le fondement. C'est-à-dire donc le réchit et le fondement. Tout commence toujours par un fondement. Le monde a été créé sur le principe d'une graine, d'une racine, d'une source avec ce qui suit après. Et la source, la graine, c'est toujours ce qui est évoqué en premier. Donc, puisque la première mitzvah qui a été donnée à Israël est la mitzvah de Rosh Chodesh, on comprend donc que cette mitzvah est censée contenir toute la Torah. C'est-à-dire que si tu veux comprendre ce qu'est la Torah, comprends ce qu'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Puisque, étant la première mitzvah qui est donnée, automatiquement, d'après ce qu'on a expliqué, elle contient l'esprit, le sens, l'essence de toute la Torah. Donc, immédiatement, on doit se poser la question, pourquoi cette mitzvah est censée contenir l'essence de tout le judaïsme, de toute la Torah? Qu'est-ce que cette mitzvah de sanctifier le premier jour du mois a de spécial pour être choisi comme étant la tête, comme il est dit, « Achodesh Azelachem Rosh » C'est-à-dire que donc le choix du premier jour, le choix de la sanctification du premier jour du mois, va nous amener à la tête, « Rosh » Comme on dit « Rosh Hashana », il y a la tête de l'année, il y a la tête des mois. Donc cette mitzvah a la capacité de dévoiler la notion de roche, de tête qui contient tout le reste, qui contient toute la Torah. Donc ça c'est la première question qu'il faut comprendre. Il y a en vérité plusieurs dizaines de questions, mais on va en évoquer qu'une ou deux, plutôt. Deuxième question, on sait sur le plan historique que cette mitzvah, à la différence de toutes les autres qui ont été données au peuple juif, nous a été donné le premier jour du mois de Nissan, c'est-à-dire 15 jours avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que nous étions encore, pas véritablement esclaves, parce qu'on était déjà pratiquement à la fin des 10 Makot, on était très précisément avant la dernière Maka, avant ce qu'on appelle Makat Bechorot, avant la mort des premiers-nés, et on sait, d'après notre tradition, que on peut dire l'esclavage dans ce qu'il a, on pourrait dire, de dur et de terrible, a cessé dès la première Maka, dès la première plaie. Et globalement, les plaies se sont étalonnées sur un an. Donc le peuple juif n'était plus, on pourrait dire, esclave sur les chantiers en train de faire des pyramides, mais il était toujours en exil, il était encore, donc il n'était pas sorti. Et en plus, on était encore à plus de 3 mois, presque 4 mois du don de la Torah. Alors la question qui se pose, c'est bien sûr, pourquoi cette première mitzvah qui contient toutes les autres est donnée alors que le peuple juif n'est pas encore sorti d'Égypte? On se serait attendu à ce que la première mitzvah qui contient toutes les autres soit donnée sur le mont Sinaï au moment où on reçoit, on pourrait dire, la Torah. Pourquoi cette coupure, la tête, la racine, la source, la graine est donnée lorsqu'on est encore en Égypte et l'arbre qui va pousser, lui, est donné sur le mont Sinaï une fois qu'on est sorti d'Égypte? C'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est comme je l'ai remarqué, comme je vous l'ai fait remarquer au début du cours, mitzvah rishona chez Nitna le Israël, la première mitzvah qui a été donnée à Israël, c'est-à-dire c'est une mitzvah qui concerne la nation juive, pas l'individu, parce que des mitzvahs qui concernent l'individu, il y en avait déjà qui avaient été données, comme la mitzvah de la Brit Mila qui a été donnée à Abraham, il y a d'autres mitzvahs qui concernent l'individu. Mais cette mitzvah, on pourrait dire, est une mitzvah de nature nationale. Chez Nitna, les Israël. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être donnée avant que commence à se former le peuple juif. Donc ce qu'on va devoir comprendre, j'espère qu'on pourra le faire aussi, c'est de voir quelle est la dimension, on pourrait dire, nationale qu'il y a dans la mitzvah de Rosh Chodesh. Et on commence après avoir donc posé ces trois questions. Alors bien sûr, je tiens à préciser qu'on ne va même pas voir la goutte de la goutte de la goutte de l'océan. Parce que c'est une mitzvah qui contient toute la Torah, vous imaginez qu'on peut en parler pendant plusieurs années-lumière. Mais en tous les cas, à notre petit niveau, on va dire la chose suivante. On sait très bien que la première lettre de la Torah est la lettre Bet, Bereshit, qui a pour valeur numérique 2. Pourquoi 2? Parce que le monde a été créé sur le principe de deux pôles, de deux, on pourrait dire de deux tendances, de deux directions, de deux facettes, qui sont ce qu'on appelle Zachar Venekeva, mâle et femelle, ou ce qu'on appelle dans un langage plus profond, mashpia ou mekabel, celui qui donne et celui qui reçoit. C'est-à-dire que Dieu a voulu, et on va expliquer en partie pourquoi aujourd'hui, Dieu a voulu que son monde fonctionne selon le principe d'un donneur et d'un receveur, et que l'union des deux permette la vie. De la même manière que l'homme et la femme, en s'unissant, permettent la vie et donc permettent que l'histoire continue, de la même manière, tout dans ce monde fonctionne sur le principe d'un donneur et d'un receveur. C'est-à-dire que personne, d'une certaine manière, ne se suffit à lui-même. Parce que le receveur a besoin d'un donneur et le donneur a besoin d'un receveur. Et c'est l'union des deux, l'unité, qui permet donc justement de faire apparaître la vie. Et la mort, c'est exactement le contraire. Je vais très 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 vite et je m'en excuse. Mais qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est le refus de l'union entre ces deux pôles, en ce sens que chacun prétend se suffire à lui-même et veut s'auto-féconder, si on peut dire. C'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est l'exclusion de la différence, c'est l'exclusion de l'autre, c'est-à-dire que je me suffis à moi-même et ce qui n'est pas comme moi, je le rejette. Alors que le monde a été créé sur le principe, justement, de comprendre que celui qui est différent de toi est justement celui qui te complète et celui grâce auquel, lorsque tu t'unis à lui, tu arrives à faire jaillir la vie et à faire progresser le monde. C'est vite dit, mais c'est tout le projet de l'histoire. Comprendre ça, il faut pour ça des millénaires. Car jusqu'à aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes n'ont pas encore compris que celui qui me dérange, c'est celui dont j'ai besoin. Mais en tous les cas, c'est ça le principe de la vie, un mashpia et un mekabel, un donneur et un receveur. Bien sûr, les choses ne sont pas figées. Le donneur d'aujourd'hui sera peut-être le receveur de demain. Donnons un exemple extrêmement simple. Je dis, c'est un exemple qui n'a pas la prétention de tout expliquer. Mais donnons un exemple. Dans la relation homme-femme, l'homme donc est le donneur au moment de la conception et la femme est receveuse. Mais la femme va mettre un enfant, un garçon par exemple, qui lui-même étant, bien qu'il ait élément mâle, il va être pendant des années, pendant fort longtemps, complètement dépendant et il reçoit complètement de la dimension féminine. Donc au moment de la grossesse et de la naissance et pendant fort longtemps, la dimension féminine devient une dimension mâle par rapport à la dimension masculine, son enfant qui est elle une dimension féminine. Ce qui veut bien dire que la notion de féminin et de masculin n'a rien à voir avec le physique. On peut être une femme homme et un homme femme, ça n'a rien à voir dans tous les sens du terme. Et pas péjoratif, je dis sur le plan véritablement chiouvi, donc positif. Ça dépasse bien sûr les limites du corps, ça dépasse les limites du physique, c'est une notion. Et qu'on peut très bien être un mashpia, être un donneur dans un corps féminin, et être un receveur dans un corps masculin. Et c'est ensof. Et dans une même vie, et dans une même journée, on peut passer mille fois à l'état de donneur, receveur, etc. Ce sont des principes fondamentaux qui n'ont plus rien à voir, comme je les explique, avec l'aspect physiologique. Quand je parle de Zahar et Nekeva, de mâle et femelle, je ne fais pas allusion, ni la Torah d'ailleurs, ni elle surtout, au masculin et au féminin occidental. On ne parle pas de ça dans la Torah. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Ce principe du masculin et du féminin se retrouve dans tous les aspects de la création. Dans l'homme, dans l'espace et dans le temps. Puisqu'on sait que la création c'est un humain dans un espace-temps. Donnons un exemple simple. Dans le temps masculin c'est le Shabbat, le temps féminin c'est les 6 jours de la semaine. Pourquoi ? Nos maîtres expliquent que les 6 jours de la semaine reçoivent leur flux, leur bénédiction du Shabbat. Donc, le Shabbat est un moteur qui, finalement, envoie un flux positif à l'intérieur des 6 jours de la semaine. Tu respectes le Shabbat, tu fais passer la bénédiction du Shabbat à la semaine. Tu ne respectes pas Shabbat, tu es dans une semaine sans bénédiction. C'est-à-dire que même si tu as plus ou moins une réussite matérielle, on le sait, on l'a déjà expliqué des millions de fois, elle est sans bénédiction cette réussite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas t'apporter le bonheur. Tôt ou tard, elle se transformera en poison. Donc, le Shabbat est véhicule, d'une certaine manière, toutes les énergies positives de l'existence dans le temps. Donc, on a trouvé quel élément masculin, quel élément féminin dans le temps. Dans l'humain, c'est encore plus facile. Le masculin véhicule la dimension du donneur, le féminin véhicule la dimension du receveur. Bien que j'ai expliqué que ce n'est pas figé dans le physique, car des fois ça change complètement. Mais globalement, c'est ce qu'on explique. De la même manière, au niveau des peuples, il y a des peuples donneurs, il y a des peuples receveurs. Nachon, plus ou moins aujourd'hui, disons que, allez, globalement, avec toutes les fausses, toutes les nuances et toutes les faussetés et les vérités, et les États-Unis sont plus ou moins un peuple donateur, et disons que le tiers-monde est un peuple receveur. On peut dire que c'est complètement faux, peu importe, mais globalement. Dans l'espace, on a aussi, bien sûr, dans l'espace, deux astres qui sont le symbole, et là on arrive directement à ce que je veux dire, deux astres qui sont le symbole du donneur et du receveur, le soleil et la lune. Le soleil est le symbole de l'astre qui donne, et la lune est le symbole de l'astre qui reçoit. Au niveau du soleil et de la lune, on ne peut pas avoir un modèle plus parfait de ce qu'on explique, c'est pour ça que c'est le modèle qui va être choisi tout le temps par les maîtres d'Israël pour représenter tout ce qu'on a commencé à expliquer, parce que l'homme et la femme, et vous voyez bien qu'en le disant, j'hésite à le dire parce que c'est pas aussi clair que ça. Combien de femmes sont des donneurs et des hommes des receveurs, et les choses évoluent, les choses changent, et ça veut rien dire, l'épouse qui est receveuse aujourd'hui, elle est mère demain, donc elle est donneur, etc., etc. Mais globalement, c'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle metouchetach, c'est pas véritablement visible à 100%. De la même manière, dans le temps, nous disons que le Shabbat, c'est lui qui remplit, bénit, renforce les jours de la semaine. Mais ça, on le dit parce qu'on a la foi de le dire, mais c'est pas une chose que nos yeux peuvent véritablement vérifier, prouver mathématiquement. Donc ça reste, on pourrait dire, une affirmation ô combien juste, mais dans le domaine de la foi. Le seul endroit où on voit, même avec les yeux les plus nuls, qu'effectivement ça fonctionne comme ça, c'est le soleil et la lune. La lune n'a aucune lumière propre, la lune ne fait que recevoir et refléter la lumière qu'elle reçoit du soleil, et donc elle est handicapée par rapport au soleil, qu'elle n'a pas sa propre lumière, elle est complètement dépendante du soleil, et de plus, non seulement elle ne peut briller que si le soleil lui donne de la lumière, mais en plus elle ne peut briller que quand Monsieur le Soleil a cessé de régner, c'est-à-dire quand il va dormir. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le soleil n'autorise pas la lune à briller en sa présence. Ça veut dire que la lune incarne vraiment d'une certaine manière la soumission totale, je parle bien sûr à nos yeux, comprenez ce qui se cache derrière. Le soleil, le rapport à nos yeux entre la lune et le soleil est un rapport, on pourrait dire, de dictature totale, où le soleil tout puissant veut bien charitablement donner de sa lumière à la pauvre lune, d'accord? Mais surtout qu'elle n'ose pas montrer son nez pendant que Monsieur le Soleil brille. Quand Monsieur le Soleil ira dormir et ronfler, Madame la Lune fera un petit peu de lumière, un petit peu de lumière, parce que par rapport au Soleil, le Soleil, même quand il va dormir, ne lui donne pas à la Lune autant de lumière que lui, il en a. Donc, à tous les niveaux, elle est diminuée. Tu ne brilles que quand je vais dormir, tu ne reçois que ma lumière et encore que ce que je vais bien te donner. Ce qui veut dire que le Nimshal, le sous-entendu est que la lune représente, on pourrait dire dans la pensée juive, la lune représente la dimension soumise, la dimension dépendante, la dimension qui n'a aucune, on pourrait dire, liberté propre, qui n'a aucune liberté d'action, aucun choix d'action propre, il est complètement dépendant du soleil. Alors, pourquoi Dieu a créé ces deux astres-là? Parce qu'effectivement, dans ce monde, d'une certaine manière, on va voir que justement c'est ça ce que le Ham Israël est venu changer, d'une certaine manière, dans ce monde, effectivement, il y a deux types d'humains, deux types de caractères. Il y a des peuples ou des humains soleil, et des peuples et des humains lune. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Tout le monde sait aujourd'hui plus que jamais qu'on est avec un cas, on est et on est. Avec une apostrophe, on est et on est, on est un caractère soleil, ce qu'on appelle en psychologie le caractère dominant, le caractère leader. Ça ne s'invente pas, on est avec. Et on est aussi, pour mille raisons qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui, avec un caractère lune, dominé, passif. Ça veut dire on suit la mode, on suit le guide, le duce, le führer, celui qui crie le plus fort. Et on sait que c'est une nature. On sait qu'il y a une nature et d'une certaine manière qu'on aime suivre. On n'aime surtout pas devancer, on n'aime surtout pas, on pourrait dire, inventer. On ne veut surtout pas être un précurseur, mais on veut suivre. Et pendant très 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 longtemps, on pourrait dire, la philosophie s'est butée à ce problème. Et c'est de comprendre cette notion-là, au point que même certaines idéologies ont été jusqu'à dire ce qui est complètement faux, que cette nature d'être dominé n'existait pas. Et c'est faux. De plus en plus, on se rend compte, et on le sait par des études extrêmement poussées, qu'il y a des caractères qui n'atteignent véritablement le bonheur que s'ils sont pris en charge. Et tu ne peux pas changer ça. Ils ont besoin d'être pris en charge. Maintenant, tout le problème est, comme on va l'expliquer, où sont les limites de cette prise en charge. En tous les cas, à partir du moment où Dieu a créé le soleil, il a créé la lune, c'est-à-dire qu'il a inscrit dans la nature du monde des caractères dominants et des caractères dominés. Et on ne peut pas changer apparemment cette chose-là, ça fait partie des lois puissantes de la nature. Quel va être, d'une certaine manière, l'aboutissement le plus négatif de ces deux natures, soleil et lune? C'est la situation de l'Égypte, avec un pharaon à sa tête qui est le roi soleil, et un peuple qui lui est complètement soumis au point de l'avoir mis en esclavage, c'est Israël. L'histoire d'Israël en Égypte est la concrétisation dans l'histoire humaine de la relation entre le soleil et la lune, mais relation poussée dans son extrême négativité. C'est-à-dire que le soleil s'exprime dans toute sa puissance de despote, de tyran, et c'est donc Pharaon qui domine l'Égypte. Pour donner une mesure de ce que c'était Pharaon, nos maîtres disent, avec de l'humour bien sûr, car ce n'est pas à prendre à la lettre, que même les oiseaux en Égypte refusaient de se mettre à faire cuicui le matin avant que Pharaon ne donne l'autorisation de le faire. C'est une blague bien sûr, mais c'est pour nous montrer la puissance tyrannique de cet homme-là. N'oublions pas, je vous avais déjà rapporté une preuve plus sérieuse, on pourrait dire de la toute-puissance de Pharaon, c'est que quand les sages-femmes ont refusé de tuer les enfants à la naissance, la Torah fait tout un plat de ce refus en disant qu'elles étaient courageuses, elles craignaient Dieu et elles ont été récompensées pour cela. Et les commentaires posent la question, mais attends, où la crainte de Dieu, où la récompense? Mais c'est tout à fait normal. Depuis quand une mère juive va tuer des enfants à la naissance? C'est impossible, impensable. Il faut ni craindre Dieu, ni être un héros pour arriver à faire des choses pareilles. Alors pourquoi on en fait tout un plat? La réponse est, c'est parce que c'est vrai que dans un contexte normal, n'importe quelle mère juive préférera mourir que de tuer des enfants. Mais dans le contexte de l'époque, le Pharaon avait créé un tel système de tyrannie qui avait été complètement intégré par son peuple, au point que ce n'était pas pensable, ce n'était pas imaginable qu'on puisse aller contre un décret de Pharaon, à plus forte raison si c'est lui qui a pris la peine de venir, de se déplacer et de parler personnellement aux sages-femmes. C'est quelque chose qui était absolument inconcevable, inconcevable, comme il y a dans tous les peuples et toutes les civilisations, on pourrait dire des choses acquises qu'on ne pourrait même pas imaginer qu'on pourrait remettre en question. De la même manière, c'était des siècles et des siècles d'éducation comme quoi Pharaon c'est Dieu, et on ne peut pas remettre en question ce que Pharaon dit. Au point que quand, pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, deux jeunes femmes ont osé lui tenir tête, la Torah dit, mais ça c'est un acte inimaginable. Parce que c'est pas en soi l'acte qui est inimaginable, c'est le contexte qui est inimaginable. Donc de là on voit qu'effectivement Pharaon représente, on pourrait dire, ce qu'il y a de plus grave dans le soleil, une dictature absolue. Automatiquement, cette dictature absolue, pour pouvoir trouver son champ d'expression, a besoin d'un esclave absolu. C'est quoi l'esclave absolu? C'est Israël. Israël va jouer le rôle de l'esclave absolu. D'où on sait que Israël joue le rôle de l'esclave absolu? C'est parce que, on le sait, Rashi fait allusion à cela, et on le sait d'une manière dans l'histoire, que Israël est de loin, ça n'a pas été le seul peuple à être esclave en Égypte, mais le seul dont on parle véritablement, qui reste, on peut dire pour toutes les générations, le symbole de l'esclave en Égypte, c'est Israël. Pourquoi? Rashi nous l'apprend à propos de la mort des premiers-nés, c'est que Israël était même l'esclave des esclaves. C'est-à-dire que même dans la hiérarchie des esclaves, le plus esclave était Israël. On retrouve cette même notion dans les camps de concentration. Il n'y avait pas que des juifs, surtout, mais pas que. Il y avait des tziganes, il y avait des résistants, il y avait tout ce que vous voulez, il y avait des témoins, il y avait pas mal de monde dans les camps. Mais en bas de l'échelle, le plus esclave des esclaves était bien sûr le juif comme d'habitude. Donc, on voit que cette notion de l'esclave à l'extrême et du maître à l'extrême sont représentées encore une fois par Pharaon et Israël. Alors on va maintenant avancer un petit peu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça finalement? Alors le fait est, c'est que j'ai déjà expliqué ce que je vais dire dans d'autres domaines et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Vous savez que les maîtres de la Kabbalah expliquent que bien que la Torah est au-dessus des astres, c'est-à-dire que les forces qui sont contenues dans la Torah sont plus fortes que toutes les forces du déterminisme de ce monde, malgré tout, il existe des forces dans ce monde, des forces naturelles, des forces qui agissent et qui influencent ce monde, comme les vents, comme toutes ces choses-là, et des forces plus subtiles, plus spirituelles, que nos yeux ne voient pas, mais qui existent. En particulier, comme on le sait, les astres ont une influence aussi énorme sur ce qui se passe sur Terre. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie d'aujourd'hui, car cette science des astres, comme j'ai fait déjà plusieurs cours à ce sujet-là, a été pratiquement complètement perdue dans nos dernières générations, parce qu'on n'y croit plus vraiment, etc., ou parce qu'on n'a plus l'intelligence pour capter ces choses-là. Mais puisque la Torah en parle, c'est que forcément ça existe. Et donc, il y a un phénomène extraordinaire qui est, on pourrait dire, révélateur de l'esprit de la Torah, comme on va voir aujourd'hui. C'est le phénomène du Shabbat. Nos maîtres disent que non seulement chaque mois a son astre, avec son influence spécifique, mais chaque jour aussi a son astre à l'intérieur du mois, avec son influence spécifique. Et il y a des astres neutres, des astres qui n'ont ni bonne ni mauvaise influence, des astres qui ont une très bonne influence et des astres qui ont une très très mauvaise influence. Parmi les 7 jours de la semaine, l'astre qui a la plus mauvaise influence, ça veut dire que sur Terre, si on est prisonnier de ce déterminisme, ça va se traduire par, disent les maîtres de la Kabbalah, des colères, des angoisses, un manque de repos intérieur, un énervement constant, c'est l'astre qui brille le samedi. Je dis samedi volontairement. L'astre du samedi est l'astre le plus négatif de la semaine. Regardez ce que fait la Torah. Elle choisit volontairement, ou plutôt c'est le contraire, parce que Dieu savait qu'il choisirait le Shabbat, le 7e jour de la semaine, pour être le symbole du bonheur véritable, intérieur, profond, de la plénitude totale, de la paix, du shalom, du repos, de tout ce qui est contraire à cet astre-là. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a mis le samedi sous les influences naturelles les plus terribles, les plus négatives, et après il a donné le Shabbat pour prouver que le Shabbat provient d'un monde dont les forces sont beaucoup plus puissantes que toutes les forces de ce monde matériel. Et le Shabbat vient briser, on pourrait dire, le déterminisme du samedi et transforme le samedi en Shabbat. Et donc ce qui normalement aurait dû être un jour terrible, le dernier jour de repos de la semaine, normalement c'est le samedi. D'ailleurs, c'est un petit peu un pélé, mais je veux dire, mais bon, c'est vraiment, je ne veux pas fonder ce que je dis sur ce que je vais dire maintenant, mais en tous les cas, le samedi, plus ou moins dans le monde, est aussi un jour où on sait, c'est un jour de commission, c'est un jour de magasin, c'est un jour de course, c'est un jour de commerce intense, de vie intense le samedi. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à cette force astrale d'activité matérielle énorme, énorme. On sait bien que l'angoisse numéro un des juifs commerçants dans le monde, c'est le samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a été à 99,9% la raison pour laquelle les juifs n'ont pas pu ou n'ont pas voulu, peu importe, respecter le Shabbat en exil. C'est parce que c'est le meilleur jour de la semaine. Donc c'est pas un hasard. Comment se fait-il que le bon Dieu s'arrange pour nous donner un Shabbat, alors que le bon Dieu savait très bien que dans l'histoire, ça allait être le jour par excellence où il ne faut surtout pas fermer son magasin. Parce que c'est justement ça. Le samedi est un jour qui est soumis à des forces naturelles, des forces matérielles énormes. Ça se concrétise dans l'histoire sans que les hommes en soient conscients par une activité matérielle intense. Et c'est justement ce jour-là que Hachem nous donne le Shabbat pour montrer qu'il existe une dimension qui est plus forte que la nature et qui va non seulement briser ces forces-là, mais les transformer au point de les amener au contraire de ce qu'elles étaient au départ. Le jour de, on pourrait dire, de tension, le jour de colère va devenir le jour de joie et le jour de repos. Donc on voit qu'il y a une intention ici profonde. C'est de briser et de faire arriver à sa nature contraire un déterminisme X du départ. On retrouve cette même notion, rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà écouté un petit peu la notion que je vais dire dans un autre cours. La raison pour laquelle C'est le mois de Nissan qui a été choisi pour être le mois de la sortie d'Égypte. Et pourquoi le 15 du mois de Nissan? Exactement la même histoire. Les maîtres de la Kabbalah et du Zohar expliquent que chaque mois est soumis à un astre spécial avec son influence, et chaque peuple a à l'intérieur des 12 mois de l'année un mois astral qui lui est propice, en ce sens que c'est ce mois-là qu'il puise toutes les forces de son idéologie, de sa civilisation, de ses forces matérielles, politiques, économiques, morales et spirituelles. Ça veut dire que c'est sa yénika, c'est sa matrice, c'est sa mamelle duquel il puise toutes ses forces. Alors figurez-vous que le mois qui était, on pourrait dire, le mois fondamental, réservoir de toutes les forces de l'Égypte, était le mois de Nissan. Et les astrologues, les savants, les astrologues égyptiens savaient que c'est ce mois-là qui, de tous les mois de l'année, est celui qui est le plus propice à exprimer, renforcer la puissance de l'Égypte. Et donc, comme un mois, son jour le plus fort, c'est forcément le 15 du mois, le jour où la lune est pleine, le jour le plus fort pour l'Égypte était le 15 du mois de Nissan. Ça veut dire que s'il y avait bien un jour dans l'année où il ne fallait surtout pas espérer pouvoir sortir d'Égypte, c'était quand? C'était le 15 Nissan. C'est ce jour-là que Hachem va choisir pour briser le déterminisme de l'Égypte, pour mettre l'Égypte à genoux, pour lui montrer qu'il existe quelque chose de plus fort encore que le 15 Nissan égyptien. C'est le 15 Nissan d'Israël qui va devenir pour toutes les générations le symbole de la mise à genoux de l'Égypte, c'est-à-dire plus profondément le symbole de la mise à genoux du culte du déterminisme naturel. Où à ce moment-là se dévoile qu'il existe au niveau de la Torah quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus fort. Après qu'on ait compris et le Shabbat et le mois de Nissan, revenons à Israël. Sachez, mes amis, que la nature profonde, véritable, naturelle, du côté du déterminisme de la nature, je ne dis pas la nature que l'on va acquérir grâce à la Torah, mais la nature véritable d'Israël, si ce n'était la Torah, c'est d'être un peuple lune. C'est-à-dire une nature de soumis, de vaincu et d'exilé. C'est dur à entendre, c'est 100% vrai, je vais vous le prouver. On le voit d'une manière extraordinaire. On le voit d'une manière extraordinaire dans un petit passage qui paraît anodin, mais qui est la clé de la compréhension, tel que Moshe lui-même va l'exprimer, la clé de la compréhension de ce qu'est la nature, ou plutôt, je vais préférer dire à partir de maintenant, la mauvaise nature première d'Israël. On le voit dans ce fameux passage où Moshe sort pour voir ses frères. Il voit un Égyptien qui frappe un Juif, et tout de suite, il réagit comme un homme normal, sain d'esprit. Il saute sur l'Égyptien et il le tue. C'est tout à fait normal. Un oppresseur, on le tue. Et donc, lui se présente comme quelqu'un qui est un libérateur. Il a déjà ça, on pourrait dire, dans sa nature profonde depuis sa jeunesse, puisqu'il est né pour être un libérateur. Normalement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend d'esclaves, d'opprimés, de malheureux qui voient un homme risquer sa vie pour eux? Parce que c'est ce qu'il a fait, la preuve, c'est qu'après il a été condamné à mort. Qu'est-ce qu'on attend? Des remerciements. Et en tous les cas, pas des insultes. Et surtout pas une dénonciation. Le lendemain, Moshe ressort et il voit cette fois-ci deux Juifs qui se battent. Il intervient et tout de suite, qu'est-ce qu'ils lui font comprendre? De toute façon, dégage, on t'a déjà dénoncé. Et effectivement, le jour même d'Atan et Aviram ont été dénoncés, Moshe, et ont été dire à Pharaon qu'il avait tué un Égyptien. Quand Moshe entend ça, tout ça c'est Rashi qui explique, il dit « Achen noda adavar ». Maintenant j'ai compris. Rachid demande « Qu'est-ce qu'il a compris ?» Rachid dit la chose suivante. « J'ai compris, dit Moshe, j'ai reçu la réponse à cette question qui me hantait depuis des années et des années. Mais pourquoi ce peuple est-il descendu si bas au point d'être non seulement esclave, mais d'être l'esclave des esclaves dans un pays de tyrans? Qu'est-ce qu'il a fait ce peuple? Même s'il n'est pas mieux que les autres. Il est loin d'être pire que les autres. Donc pourquoi? Maintenant, j'ai compris. J'ai compris, quelque chose s'est révélé. Moshe a compris qu'il y avait un problème dans la nature première de ce peuple, c'est que il n'aspire pas véritablement à la liberté. Il n'aspire pas véritablement à se prendre en main. Ce peuple-là se complaît dans sa situation de soumis. Ce peuple-là accepte et s'accommode d'être esclave. La preuve, c'est que quand je viens pour les libérer, ils ne trouvent rien d'autre à faire que de me dénoncer. On pourrait répondre à Moshe, oui, mais ça c'est des brebis galeuses. Ce ne sont que Datam et Aviram. On sait très bien que tout phénomène rapporté dans la Torah est révélateur d'une vérité absolue, sinon la Torah n'en parlerait pas. La Torah ne parle jamais de petits potins de France Dimanche ou de Paris Match. La Torah révèle des problèmes fondamentaux qui concernent l'essence même de l'humain et de l'histoire. Donc si la Torah rapporte cette anecdote, ce qui veut dire qu'elle est de portée nationale et que c'est ce que Moshe, qui était déjà bien sûr un homme immense au niveau de sa compréhension des choses et du monde, Moshe comprend que ce phénomène de la délation est un phénomène qui révèle une nature soumise profonde. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais il dit, je comprends. Comment ce peuple en est arrivé à se laisser soumettre au point de devenir l'esclave des esclaves? C'est que ce peuple-là fait partie de la dimension lune. Ce peuple-là est un peuple lune. Mais dans la lune, il y a différents degrés. Il y a la pleine lune, il y a le quart de lune, le zéro lune. Et il y a aussi effectivement le zéro lune, c'est-à-dire le moment, le dernier jour du mois où elle n'a même plus de lumière. C'est-à-dire que le soleil refuse de lui donner sa lumière. C'est-à-dire même la charité que le soleil lui fait pendant 29 jours, ce jour-là, il ne lui fait plus. C'est-à-dire que dans le phénomène lune, il y a des peuples plus ou moins lunes. Et Moshe comprend, mes amis, que la nature profonde d'Israël s'enracine dans le dernier jour du mois de la lune. Je sais que ça paraît fou, ce que je suis en train de dire. Mais en vérité, c'est fou parce que il y a toute une autre dimension, mais ce que vous devinez déjà qu'on va expliquer, qui est tout le cours d'aujourd'hui. Et puis parce que c'est difficile d'admettre ça, mais les faits sont là pour le prouver jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'aujourd'hui, pour ne prendre que cet exemple-là, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 100, 1000... peut-être 6, 7, 10 millions de juifs qui ne sont pas encore revenus en Israël, ça veut bien dire qu'on est un peuple lune. Attends, quand les portes sont ouvertes, quand c'est un billet d'avion et quelques difficultés, tu peux revenir sur ta terre attendue depuis des millénaires, tu vas continuer à te mentir à toi-même dans quelques jours et tu vas dire l'Eshana à Bab Yerushalayim, mais tu continues à prendre le métro à Paris. Donc ça veut dire que tu es vraiment un exilé. Donc si tu ne comprends pas. Donc ça c'est un exemple simple. Mais attention, nous, on n'a pas à faire le malin devant eux. Pourquoi? Parce que nous aussi, même nous, sur notre terre à Jérusalem, par rapport à tout ce qu'on sait, qu'on pourrait et devrait faire, et qu'on ne fait pas, parce que qu'est-ce que vont dire les Américains, qu'est-ce que va dire ma soeur, qu'est-ce que va dire ma tante, qu'est-ce que tatatatata, et que finalement on continue, même sur notre terre, à vivre comme dans un ghetto, à toujours se demander, mais qu'est-ce que pense le grand Seigneur? Est-ce qu'il me permet de respirer, oui ou non? Donc c'est encore une manière de dire que de toute façon, qu'on fasse pas le malin sur ceux qui vont dire les Shana Abba en plein Paris. Parce que de toute façon, à notre niveau, on n'est pas beaucoup mieux qu'eux. On est globalement, nous tous, les Juifs, un peuple qui constamment lève la tête comme l'esclave vers son maître. Je peux, eh monsieur, je peux respirer, j'ai le droit de me défendre. Après 6000 missiles qu'on nous a tirés de la bande de Gaza, j'ai le droit de rouspéter, j'ai le droit. Donc, on est véritablement un peuple absolument incroyable. Parce qu'on ne peut pas expliquer notre nature autrement. Parce qu'aucun peuple ne fonctionne comme nous. N'importe quel peuple qui est dans son droit se défend et envoie zuter le monde entier. D'accord? N'importe quel peuple exilé depuis des millénaires et qui a perpétué le souvenir de son exil. Je ne parle pas de ceux qui ont oublié. Mais qui feraient Pessah pendant 2000 ans. Maintenant, ça y est, c'est un billet d'avion, c'est 400 euros. Mais viens déjà. Mais non, mais tu comprends, le travail, les affaires, la suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc quoi? que la véritable raison, la seule raison possible, c'est que tu es fondamentalement un exilé. Seulement, il n'y a pas que toi. Moi aussi, à Jérusalem, je suis un exilé. Parce que je suis aussi un exilé, en ce sens que, qu'à chaque fois que je veux respirer, je demande aux Américains si j'ai le droit de le faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est tous des exilés. C'est ce que Moshe comprend. Dieu a créé sur terre un peuple, l'une, qui est le plus lune des lunes. Et pourquoi il a fait ça? La réponse est simple. De la même manière qu'il a créé le samedi pour en faire le Shabbat, de la même manière qu'il a créé le 15 du mois de Nissan, qui est le jour de la tyrannie égyptienne, pour en faire le jour de la libération d'Israël, il a créé un peuple auquel Dieu a donné, et ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est lui, auquel il a donné une nature de lune, et il lui a dit, mes enfants, vous allez faire en vous ce que j'ai fait avec le Shabbat. Vous allez non seulement transformer, sublimer votre nature, mais vous allez prouver au monde entier que le déterminisme de ce monde n'existe pas véritablement et qu'il existe une force inimaginable qu'on appelle la Torah, qui grâce à laquelle et avec laquelle on peut tout transformer au point d'arriver à l'extrême opposé de ce qu'on était au départ. C'est-à-dire que si tu étais un esclave, tu vas devenir un peuple de roi. C'est exactement ce que Hachem dit à Moshe juste avant le don de la Torah. Ve'item li mamlechet kohanim. Rashi explique kohanim, pas dans le sens de prêtre, car le mot kohen en hébreu veut dire deux choses. Ça veut dire puissant et ça veut dire prêtre. Rashi dit que là-bas, sur le verset mamlechet kohanim, un peuple de roi et de dirigeants. Vous allez devenir un peuple de rois et de dirigeants, vous, dont la nature profonde est de vous complaire dans l'esclavage mental, moral et physique, vous allez devenir un peuple de rois. Mais pour ça, il faut ma Torah. C'est-à-dire que le peuple juif va vivre, on pourrait dire, toute son histoire dans cette dualité folle, ce qui fait qu'on sait que chez les juifs, il y a le plus de schizophrènes que partout ailleurs, parce qu'on est déchiré entre deux types de natures qui sont extrêmement opposées. Sans la Torah, on devient un esclave, et on aime l'être, et chacun à sa manière, et chacun comment qu'il le dira. Et avec la Torah, on devient un roi, un leader et un dirigeant. Et donc, à l'intérieur de ce même peuple, à l'intérieur de cette même nature, se trouve potentiellement, on pourrait dire, deux êtres qui luttent à l'intérieur de moi. L'esclave en moi qui me dit « baisse la tête et demande à ton patron si tu as le droit de respirer » et le dirigeant, le leader, le roi en moi qui brise les chaînes de l'esclavage et qui s'affirme dans toute sa puissance dans le monde et dans les peuples. Et en vérité, c'est pour ça que les nations deviennent folles avec nous parce qu'elles ne savent pas sur quel pied danser. De derrière les barbelés d'Auschwitz, trois ans après, on se retrouve avec un État, ils ne comprennent pas. De ce peuple qu'on pensait être un peuple de lâches, de faibles, de tout ce que vous voulez, juste bon à transformer en cendre et en savon, on retrouve en quelques années l'armée la plus puissante du monde, la plus capable du monde. Mais comment c'est possible dans le même peuple? C'est pour ça qu'ils disjonctent avec nous, ils ne comprennent pas. La vérité, c'est ce qu'on peut leur dire, c'est vous inquiétez pas, nous non plus on ne se comprend pas. Nous non plus on ne sait pas qui on est. On est habité par deux forces inimaginables, soit on est des super-lunes, soit on est des supermanes. Superman au sens de super soleil, on est encore plus fort que vos soleils à vous. Et tout va dépendre de la Torah. Maintenant, vous allez comprendre, et on a pratiquement tout compris, pourquoi la première mitzvah qui nous a été donnée est la mitzvah de sanctifier le premier jour du mois lunaire. Pourquoi c'est cette mitzvah qui contient toutes les autres? Pourquoi cette mitzvah concerne la nation d'Israël et pas l'individu? Pourquoi cette mitzvah on l'a reçue avant de sortir d'Égypte et pas après? Toutes ces questions ont une seule réponse. Parce que cette mitzvah est le symbole même de ce que Dieu demande à notre peuple. Et cette mitzvah est le symbole de toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, que signifie sanctifier le premier jour du mois? Ça signifie changer, transformer la nature du cycle lunaire. Évidemment, on sait très bien que sanctifier signifie élever, détacher, arracher. C'est la vraie traduction du mot, les kadesh en hébreu. Les kadesh et tachodesh signifie arracher le mois. Arracher le jour lunaire, dont le symbole est le premier jour, l'arracher à son déterminisme de soumission, et l'élever au-dessus de ce déterminisme. Le Ham Israël a reçu la mitzvah et donc la force, et c'est ça la tête, la racine de toute son existence, de montrer, d'abord de se montrer à lui-même et de montrer au monde entier qu'aucune force de ce monde ne peut être plus forte que la Torah. Et automatiquement, grâce à la Torah, j'arrive à sublimer, transformer, et je vais briser ma nature de lune pour devenir le plus puissant de tous les soleils. Ah, maintenant vous comprenez pourquoi cette mitzvah a été donnée quand on était encore en Égypte. Parce que c'est de cette mitzvah que dépend la sortie d'Égypte. Pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait cesser d'être des esclaves. Mais le problème, c'est que pour cesser d'être un esclave, faut-il encore le vouloir? Et dans son fond intérieur, même si le juif ne veut pas se l'avouer, dans son fond intérieur, on n'était pas si malheureux que ça en Égypte. La preuve, c'est que 4 cinquièmes ne sont pas sortis. La preuve, c'est que même le cinquième qui est sorti à chaque bonne occasion, il s'est rappelé que c'était pas si mal que ça en Égypte. Et il a voulu, à plusieurs reprises, faire demi-tour et retourner en Égypte. Ça veut dire que la Torah nous révèle que tout ça, c'est du blabla, que fondamentalement, si ce peuple n'est pas accroché de toutes ses forces à la Torah, il laisse libre cours à sa première mauvaise et sale nature, qui est une nature d'esclave. Et donc, automatiquement, c'est pour ça qu'on comprend que cette mitzvah-là, si on ne la réalise pas, on ne peut pas sortir d'Égypte. Voilà. Et donc, il faut briser ce déterminisme-là. Et on comprend pourquoi cette mitzvah, enfin, a été donnée au peuple et non à l'individu. Parce que c'est surtout le peuple dans son ensemble qui a cette force de briser le déterminisme. Parce que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, on reste malgré tout relativement faible, comme un membre coupé du corps qui va en mourant. Mais quand le corps est entier, quand tout le peuple est ensemble, quand il y a l'unité, la fraternité entre nous, ça nous donne des forces inimaginables de briser le déterminisme. Pourquoi? On le sait tous, sans rentrer dans les détails. Pourquoi on sait tous que depuis qu'on est ici, on a des forces énormes qu'on n'avait pas en Chutz Laaretz? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, entre autres, à part la sainteté de la terre qui nous purifie, mais c'est parce qu'on vit une histoire de peuple. Quand on était à Paris, à Marseille ou à New York, peu importe, on était des individus, on était des communautés, on était des membres coupés d'un corps, donc on n'avait pas de vie. Aujourd'hui, on participe à l'histoire d'un peuple et automatiquement, chacun d'entre nous cesse d'être un individu et l'élément d'une nation, et ça donne à chacun d'entre nous des forces inimaginables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fort qu'on l'a été avant. Parce que c'est le phénomène, justement, de la mitzvah de Rosh Chodesh qui concerne le peuple et non l'individu. Maintenant, vous allez comprendre, et pour terminer, comment, même au niveau de la halakha, puisqu'on sait très bien qu'il y a une relation énorme entre la loi et les secrets de la Torah, et que même les moindres détails de la loi cachent, comme le haut d'un iceberg, des secrets énormes, on comprend pourquoi la mitzvah de Rosh Chodesh est la seule mitzvah pour laquelle la Torah autorise le témoignage de deux parents, comme deux frères, ensemble. J'explique. Vous savez que à l'époque du Temple, à l'époque du Beth Amikdash, comment on décrétait le nouveau jour du mois, deux témoins voyaient, apercevaient, on apprenait bien sûr, aujourd'hui on ne le fait plus parce qu'on n'a plus besoin, parce que c'est plus la halakha, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash, le temple. Mais on apprenait aux enfants à reconnaître, on pourrait dire, la forme de la lune le premier jour du mois. Et donc, dans les écoles, très tôt, tout le monde savait repérer, on pourrait dire, ce à quoi ressemble un début de mois. Et les premiers deux témoins qui voyaient le jour qui est censé, parce qu'on savait plus ou moins, on connaît le cycle de 29-30 jours, le jour qui était censé être le jour de Rosh Chodesh, le premier couple de témoins qui apercevait ce faisceau, montait à Jérusalem, si ce n'était pas à Jérusalem, c'est qu'on l'a aperçu à Beersheba, à Ashdod, donc il montait à Jérusalem, allait devant le Sanhedrin, devant le grand tribunal, disait voilà, on a aperçu à tel endroit, à telle heure, etc. Le tribunal faisait une petite enquête pour voir si c'est pas un fantasme, une vision. Et quand on avait la preuve qu'effectivement ils ont vu le premier jour, la lune, le premier jour du mois, à ce moment-là il y avait toute une cérémonie, on décrétait, on sanctifiait ce jour-là. Il s'agit d'un témoignage. Or, puisque deux personnes viennent témoigner de ce qu'ils ont vu. Or, on a une loi fondamentale que dans tous les témoignages, deux parents ne peuvent pas témoigner ensemble. Or là, c'est le seul endroit dans toute la Torah où deux frères sont autorisés à venir ensemble et témoigner. D'où on l'apprend de Moshe et Aaron. Vous regarderez dans Parshat Bo, le chapitre 12, le premier verset. Dieu dit à Moshe et à Aaron, Achodesh Azelachem, etc. Voici le nouveau mois pour vous. Et les commentaires font remarquer pourquoi il est dit à Moshe et à Aaron, pour leur apprendre que bien que Moshe et Aaron, même Moshe et Aaron, ne peuvent pas s'associer dans tous les témoignages, ne peuvent pas s'associer pour témoigner ensemble, pour celui-là, ils ont le droit de venir et dire, nous avons vu ensemble la nouvelle lune. Ça paraît très très anodin, mais là-bas, derrière ça, se cache toute la puissance de l'enseignement d'aujourd'hui. J'explique. Même Moshe et Aaron, qu'on ne peut en aucun cas soupçonner de mentir, même eux ne peuvent pas témoigner dans un autre témoignage. Par exemple, Moshe et Aaron viennent, imaginez-vous, et comprenez bien la scène parce que c'est l'exemple qui est rapporté entre autres dans le Talmud. Imaginez-vous dans une ville, on entend tout le monde des cris, « Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur !» Tout le monde se réveille pour aller voir. Moshe et Aaron, qui étaient en train d'étudier ensemble, se lèvent et vont et courent. Ils aperçoivent au loin le voleur. D'accord ? Ils le reconnaissent. Ils voient qui il est. Mais il court plus vite qu'eux et il s'échappe. Moshe et Aaron viennent au tribunal et il veut dire, voilà, on sait qui est le voleur. On dit, halt, parlez pas. Votre témoignage est un faux témoignage, on ne l'accepte pas. Vous êtes deux frères. Bon, je banalise, je vais vite, c'est sans nuance, etc. Mais globalement, pour aller droit au but, non. Deux frères ne peuvent pas témoigner. C'est une interdiction. Deux frères ne peuvent pas témoigner sur quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes deux frères? Je vous pose la question. On soupçonne Moshe et Aaron de mentir? Voilà. Que ça veut dire? Alors la vérité est, c'est que même à Moshe et à Aaron, le fait qu'ils sont frères, ça crée, on pourrait dire, un champ de subjectivité entre eux, dont ils ne sont même pas conscients, parce que la nature humaine est plus forte que, on pourrait dire, que la morale et les qualités humaines, d'une certaine manière. Je vais dire le contraire dans 5 minutes, mais pour l'instant je le dis comme ça. Et même Moshe et Aaron, on leur dit, sachez, vous êtes les symboles de l'honnêteté, vous êtes les symboles de la droiture et de la justice. Mais Magdou, vous êtes deux frères et vous ne pouvez pas ensemble rapporter ce que vous avez vu parce qu'on craint que, on veut dire que le champ magnétique, le champ subjectif qui se crée entre vous parce que vous êtes deux frères, a peut-être faussé véritablement votre vision et vous pensez peut-être avoir vu un tel, mais va savoir peut-être que c'était pas tout à fait un tel, il lui ressemble. Et comme vous êtes deux frères, vous n'avez pas suffisamment de recul, de distance pour pouvoir apercevoir à 100% la chose. La Torah vient témoigner du fait qu'une vision de proche parent, et on pourrait dire, s'influence, il y a un autre mot, ce télescope, vous m'avez compris, et peut arriver à des conclusions qui ne sont pas bonnes. Voilà. C'est un sujet en soi, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Et tout d'un coup, même que la Torah vient de nous apprendre la force, on pourrait dire, de la nature, au point qu'elle est plus forte que la bonne volonté de Moshe et Aaron, quand il s'agit de Kiddush HaChodesh, Moshe et Aaron peuvent venir et dire, voilà, on était à Beersheba, on a aperçu là. Pourquoi dans ce cas-là, ils peuvent? Pourquoi? Là aussi, on devrait craindre qu'il y ait une interférence, etc., et une anomalie. Peut-être qu'ils n'ont pas bien vu, mais comme ils sont tous les deux ensemble, deux frères, et psychologiquement, subjectivement, ils se court-circuitent leur vision, peu importe, X, Y, Z. Pourquoi on ne craindrait pas ça ici? Non. Parce que la mitzvah qui est liée à la sanctification du premier jour du mois est une mitzvah qui est complètement, complètement au-dessus de la nature. Cette mitzvah vient révéler qu'il existe dans le peuple juif une force mystérieuse qui l'élève complètement au-dessus de la nature, au point que même deux frères cessent d'être, on pourrait dire, des frères dans ce que la notion a de négatif par rapport à ce que j'explique. Au moment où les deux frères s'attachent à sanctifier la nouvelle lune, à ce moment-là se passe quelque chose qui les sublime, qui les élève au-dessus de leur propre nature, au point qu'à ce moment-là, ils deviennent comme deux étrangers, c'est-à-dire qu'ils ont complètement, on pourrait dire, changé leur nature dans l'espace du temps qu'il faut pour se consacrer à cette mitzvah. Et pourquoi on nous apprend ces choses au moment de la sortie d'Égypte? Pour nous dire la chose suivante. sortir véritablement de l'exil, c'est aussi dur, et en même temps aussi facile, quand on a la bonne clé, c'est aussi dur que pour deux frères cesser d'être deux frères. Ça veut dire, ça demande un arrachement total à une nature extrêmement profonde, et malgré tout, tu peux et tu dois y arriver. C'est ça le secret de cette mitzvah. Et le secret de cette mitzvah, c'est bien sûr la Torah. Ce qui veut dire que la conclusion est qu'aujourd'hui est un jour inimaginable. Aujourd'hui est un jour qu'on doit consacrer un peu plus que d'habitude à l'étude de la Torah, à toute chose qui nous permet de nous élever, parce qu'aujourd'hui, on reçoit non seulement toutes les forces dont on a besoin pour le mois de Nissan, en particulier pour Pessah, mais on reçoit aujourd'hui toutes les forces de l'année, toutes les forces spirituelles de l'année. Alors vous me poserez la question, alors quelle différence avec le premier jour du mois de Tishrei? La différence est extrêmement simple. Le premier jour du mois de Tishrei, que le premier jour du cycle solaire, on reçoit toutes les forces dont un homme a besoin pour vivre dignement à l'intérieur de ce monde naturel. Le premier jour du mois de Nissan, on reçoit toutes les forces dont on a besoin pour vivre dignement au-dessus de ce monde. On n'a pas toujours le besoin, la nécessité d'être au-dessus de ce monde. On n'a pas non plus toujours besoin d'être à l'intérieur de ce monde. C'est pour ça qu'on a les deux calendriers. On a à la fois le calendrier lunaire et solaire, pour dire qu'il y a des moments où l'homme doit au contraire vivre et surfer et naviguer à l'intérieur du monde naturel. Ça, c'est le cycle solaire. Il y a des fois où l'homme doit avoir la force, le courage et la possibilité de s'élever complètement au-dessus de la nature. Ça, c'est le cycle lunaire. Aujourd'hui, nous recevons pour toute l'année les forces dont nous avons besoin pour qu'à chaque fois dans l'année où on aura besoin d'un miracle pour s'en sortir, on arrive à puiser à l'intérieur de nous les forces de ce miracle. C'est donc un jour extrêmement important et Bezrat Hashem qu'on soit à la hauteur. Amen.